L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Les livres invitent au voyage. Invitation baudelairienne par excellence, c'est aussi celle qui est lancée par Anne-Sophie Lacombe, qui sera notre invitée pour cette émission. Un voyage au pays des Carpates, en Roumanie, plus précisément. On pourra y goûter du borsch, de la sarmale ou des gogossi. On pourra y entendre de douces musiques jouées par Cornelia et aussi des voix retraçant de 1908 à nos jours le destin singulier d'une famille roumaine.
Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir.
Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission.
Merci de m'avoir invitée.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc vous êtes l'autrice du livre Le doux murmure des Carpates, qui est donc un roman paru aux éditions Le Héron Bleu. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît?
Oui, tout à fait. Donc Anne-Sophie Lacombe, donc moi je suis fonctionnaire territoriale. Je suis née à Brive, donc une grande cité du livre, hein, avec la foire du livre, qui est nationalement connue malgré la taille de cette petite ville rurale, dans un département rural. Donc j'ai grandi à Brive, après je suis partie à Bordeaux, et depuis une dizaine d'années, je suis venue à Montpellier, qui est le choix de la mer Méditerranée, clairement, et qui est vraiment une ville où je me suis sentie chez moi immédiatement, et qui a libéré vraiment ma créativité. C'est vraiment ici qu'est né ce livre, et finalement, bon, c'est un livre qui va, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet, qui va parler d'exil, mais en quelque part, toutes les communautés qui vivent à Montpellier m'ont beaucoup nourri, et c'est vrai que les histoires d'exil, là c'est une histoire d'exil entre la France et la Roumanie, mais Montpellier accueille encore et accueille beaucoup de populations immigrées, et pour moi c'est une grande richesse. Donc oui.
Pardon, c'est votre premier roman ?
Oui, c'est mon premier roman, tout à fait.
Oui.
Oui.
Alors, pour cette émission, ce que je vous propose pour ce beau roman, c'est de le découvrir en musique. Si vous êtes d'accord, nous allons suivre l'un des personnages secondaires
oui, tout à fait.
De ce roman, qui s'appelle Cornelia, qui est lié avec le personnage principal.
Tout à fait.
Iléana, je prononce
oui.
bien.
Oui, 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 Iléana.
Je ne suis pas sûre de la prononciation culinaire de l'introduction, hein, je tiens à le préciser.
Je ne suis pas roumaine. C'est vrai que je le pose aussi parce que beaucoup de gens pensent que j'ai des liens avec la Roumanie. Alors, pas du tout. J'ai un grand lectorat d'origine roumaine et c'est une grande fierté, mais il y a une réalité historique. Je me suis beaucoup documentée. Malgré voilà, toute l'affection, toute... l'attrait que j'ai eu pour ce pays, donc je ne suis pas roumaine, donc je ne pourrais pas cautionner une prononciation.
Vous pardonnez voilà. aussi tout par la fait. Même la prononciation,
voilà,
les
c'est
petites
ça.
Erreurs.
Tout à fait.
Donc ce qu'on propose aujourd'hui à nos auditeurs, donc c'est une découverte du roman à travers ce personnage que vous avez construit, mais aussi en musique, puisque cette seconde saison des émissions L'Épluche Libre porte sur la créativité, l'inspiration et le lien entre écriture et musique.
Tout à fait.
C'est parti, on peut parler de Cornelia ?
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous présenter donc peut-être contextualiser l'histoire et nous expliquer qui est Cornelia par
tout
rapport
à
ce récit.
Donc, comme je vous le disais, c'est un roman d'exil. Donc, la jeune femme Ileana donc, est une fille d'immigrés roumains qui sont venus en France pour fuir la dictature de Ceausescu. Donc, ce roman, c'est un roman d'exil, mais surtout un roman, je dirais, de quête d'identité, où cette jeune femme, elle a une trentaine d'années, va se poser la question, est-ce que je suis française, est-ce que je suis roumaine, sachant que ses racines roumaines se sont complètement étiolées dans la France, où elle s'est complètement intégrée. Donc à la trentaine, elle va avoir une quête des origines qui va l'amener à interroger ses parents, qui sont un mur de silence, et je la fais aller sur la terre de ses ancêtres, en Roumanie, et où là, en Roumanie... elle va aller vraiment sur la terre de ses ancêtres, donc dans les Carpates, au sud de la Roumanie, dans une région qui s'appelle l'Oltenie, qui est la grande ville s'appelle Craiova. Et effectivement, je vais la faire aussi, elle va remonter et comprendre son histoire à travers deux vieilles femmes, une qui s'appelle Doina, qui est une femme de sa famille, donc une femme qui a un profil plutôt très soumise, que la dictature a très marqué, et qui reste, malgré, on va dire, la démocratie, assez triste, parce que c'est quelqu'un qui est très chaleureux, qui a beaucoup de cœur, quelqu'un qui cuisine beaucoup, vous en parliez tout à l'heure, tous ces plats que mon héroïne adore. Et un deuxième personnage qui s'appelle Cornelia, donc nous y voilà. Donc cette femme, en fait, n'est pas de sa famille, mais était très amie avec sa grand-mère. Et donc il faut savoir, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, Ileana, mon personnage, a grandi entre ses parents et sa grand-mère. Et vraiment, c'est la grand-mère qui cajole en roumain, qui fait des plats roumains, qui parle roumain. Donc elle va découvrir, parce qu'elle ne le savait pas, elle va avoir l'opportunité, enfin je lui donne l'opportunité, d'aller dans le village natal de sa grand-mère, où habite encore Cornelia, qui est vivante, donc qui a un peu moins de 90 ans, on va dire. Et donc cette femme... assez surprenante, elle habite au fin fond de la Roumanie, dans un tout petit village où, en 2005, on trouve encore des carrioles tirées par des ânes. Enfin, c'est tout à fait la réalité, dans une maison où on sent qu'il n'y a pas d'aisance du tout financière. Cette femme dégage déjà physiquement une grande classe, et c'est une femme donc, qui va lui raconter son histoire. Et l'histoire de ses ancêtres, en fait, ses ancêtres faisaient partie de la bourgeoisie provinciale, locale. Et c'est typiquement eux qui ont été visés en premier, d'ailleurs, par la dictature. Et ça, par contre, elle l'ignorait.
D'accord.
Donc,
est-ce que peut-être on peut parler un petit peu plus de cette dictature dans les grandes lignes, dans pour contextualiser un petit peu pour nos auditeurs?
Tout à fait. Donc la dictature, elle est arrivée pas à pas, je dirais... en Roumanie, les premiers stigmates se sont vus dans les années 36-37, où elle arrivait pas à pas. Après, la Roumanie a basculé dans la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, après la guerre, effectivement, c'est là que la dictature s'est installée. Et les premières familles visées, mais comme toutes les dictatures de l'Est, c'était vraiment tout ce qui... on appelait ça les dictatures du prolétariat. Donc, toutes les familles qui ont été visées, c'était les familles bourgeoises, petite noblesse... ou en général, c'est ce que je fais arriver dans la famille, c'est en général les pères de famille étaient emprisonnés, on les revoyait jamais, donc ces gens-là, on va dire, mouraient, mais ils n'étaient jamais enterrés, etc., ce qui arrive dans cette famille-là, et il s'en suivait un déclassement des gens, et avec aussi le deuxième pendant, c'est les réquisitions de maisons, qui est quelque chose d'ailleurs qui n'a même pas été traité post-dictature, parce que les anciens communistes qui s'appropriaient, on va dire, ces maisons, alors il y a encore un vrai sujet hein, dans la dictature, mais voilà le contexte. Donc vraiment à partir de 45, on est vraiment dans une dictature avec tous les ressorts, enfin c'est les dictatures des pays de l'Est, donc tous les ressorts qu'on connaît, hein. Mais ils ont éradiqué, on va dire, toutes ces familles qui sont déclassées, qui n'ont plus d'aisance financière, et qui en plus sont vraiment fichés, entre guillemets, et mis dans des bas emplois, ou régulièrement convoqués, torturés, etc. Donc ben, c'est des régimes de terreur avec une police politique très forte. Quoi.
D'accord. Voilà. Et de nombreuses familles, je présume, ont choisi donc l'exil ?
Oui, alors effectivement, oui, enfin, dans la mesure du possible, parce qu'il fallait passer ce fameux rideau de fer, oui, certaines familles... Des milliers de familles sont restées sur place, déclassées ou cherchant, comme je le fais dans le roman, il y en avait qui arrivaient à se placer instituteurs au fin fond d'un village. et à survivre, parce que c'est de la survie. Et effectivement, bon, comme c'était des catégories sociales plus, on va dire, ben, ils avaient plus de moyens financiers ou des contacts. Et c'est ce qui a alimenté en France la communauté roumaine française, qui reste très importante en nombre. Et en général, les gens qui venaient étaient des intellectuels, des professeurs de littérature, des ingénieurs comme le père d'Ileana. C'était pas des paysans illettrés. Hein. Cette immigration, oui, c'était quand même une immigration de gens qui étaient cultivés, formés, qui avaient des diplômes. Voilà.
D'accord. Et donc, revenons-en peut-être à la rencontre entre Ileana et Cornelia. Oui. Que se passe-t-il à ce moment-là?
Donc, elle, il faut savoir que voilà, la charge émotionnelle est forte parce qu'elle est dans le village où a vécu sa grand-mère, où est née sa grand-mère. Donc, elle va rencontrer cette femme et effectivement, c'est un choc parce qu'elle va rencontrer quelqu'un qui est très vivant, qui va lui confier de nouveaux secrets de famille sur des choses qui avaient été tues, qui étaient de belles choses, qui n'étaient même pas des mauvaises nouvelles, mais finalement, la dictature a tout emporté, hein, tout fossoyé. Donc, d'une part, voilà, elle va lui parler de sa grand-mère, et en même temps, elle lui confie aussi sa vie, et c'était aussi mon objectif de montrer que dans une dictature qui vous écrase, il y a des trajectoires. Et sa trajectoire à elle, c'est que venant, elle, ce qu'elle a gardé, en fait, c'est que la dictature est arrivée, elle avait à peu près 16 ans, 16, 17 ans. Donc elle a été formée vraiment à la musique, c'est notre objet, à l'art en général. On va dire que ses parents, les ancêtres d'Ileana étaient des mécènes, on va dire, qui recevaient à leur table des écrivains, des poètes, etc. Et donc Cornelia jouait du piano, ils avaient une gouvernante française, parce que c'est vrai que les Roumains, je dis, sont francophones et francophiles. Donc c'est vrai que c'était la France, la France avec l'exception culturelle, la langue française. Et donc elle a joué beaucoup de piano. Et effectivement, là, vous avez passé tout à l'heure, j'ai entendu la Traviata. Et elle lui en parle. Son père l'a amenée à Vienne pour ses 15 ans voir la Traviata. Et c'est presque ce qui l'a rendu, qu'il a laissé debout pendant toutes ces années de dictature, enfin de cette nourriture par l'art a réussi à perdurer malgré tout ce qu'elle a connu de déchéance sociale, de tristesse, etc.
Donc, vous l'avez souligné, effectivement, nous avons passé en fond, grâce à Alice qui est à la régie, la Traviata, donc, qui est une des œuvres qui est jouée, enfin qui est citée en tout cas dans le livre. Je propose à nos auditeurs d'écouter un deuxième morceau qui fait sens pour vous dans ce récit.
Thank you.
Nous venons d'entendre Spring Vals, Mariage d'amour, interprété par Paul de Senneville. Vous écoutez Les Pluches Livres. Nous sommes en compagnie d'Anne-Sophie Lacombe, donc autrice du livre Le Doux Murmure des Carpates. Anne-Sophie, je crois savoir que la musique que nous venons de partager avec nos auditeurs est une musique qui vous a été inspirante pour l'écriture de ce roman ?
Tout à fait, enfin, surtout sur la partie de Cornelia, parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle a baigné dans la musique et c'est vraiment ce qui lui a donné cette force pour rester, pour trouver vraiment une joie dans ce qu'elle a vécu. Et c'est vrai que j'ai éprouvé, enfin, ça s'est fait naturellement. J'ai rencontré cette musique et au moment où j'écrivais sur Cornelia, à ce moment aussi particulier où elle est, parce que, où elle est et où je suis avec elle, au cœur du cœur, vraiment, de ses racines. Voilà, j'ai été portée par cette musique.
Et alors, vous le disiez en première partie d'émission, vous n'avez pas de lien a priori avec la Roumanie, avec l'histoire de ce pays. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré pourquoi ce sujet ? Alors, récit, saga familiale, oui, déjà c'est une première question.
Tout à fait. J'ai pas tout à fait la réponse. Il y a un peu un livre qui est vraiment la graine, qui est Un brillant avenir de Catherine Cusset, où elle, alors c'est un roman, mais c'est l'histoire de sa belle-mère qui était roumaine et qui a fui via Israël, parce que c'est ce qu'on appelait la filière juive, aux États-Unis. Mm-hmm. Et j'avoue que je l'ai lu en 2010 et il m'avait complètement bouleversée sans que je tienne tous les ressorts, etc. Donc est-ce que c'est ça qui a fait germer après tout ce qui est transgénérationnel, c'est vraiment Tracy Chevalier, La Vierge en bleu. D'accord. À l'époque, c'est ces deux romans D'accord. que j'identifie comme les petites graines, on va dire. Ouais. Après, j'ai commencé vraiment le roman autour de la relation entre la grand-mère et la petite fille. Et elles sont, c'est la Pâque orthodoxe, avec les œufs de Pâques qu'elles peignent. Donc quelque chose de très, un rituel, un marqueur fort aussi d'identité. Après, je voulais vraiment aller sur de la Roumanie, que j'appellerais roumaine, parce que par exemple, si on est en Transylvanie, c'est de la Roumanie hongroise, ils parlent hongrois.
Alors voilà, c'est l'objet de la deuxième partie de ma question. Donc saga familiale, vous l'expliquez. Mais Roumanie, qu'est-ce qui vous attire dans ce pays méconnu finalement, sur lequel oui. on a certainement beaucoup de préjugés,
alors, voilà,
de clichés.
Tout à fait, je dirais méconnu et surtout avec de multiples préjugés. Et on va dire, là, on confond souvent les Roms et les Roumains, ce qui n'a absolument rien à voir. Et c'est vrai que la communauté roumaine, on va dire, on s'identifie au pays de l'Est, sachant que c'est un pays de l'Est, mais c'est un pays à culture latine, c'est le seul, ce n'est pas une culture slave. Donc c'est vrai qu'on a une grande proximité, enfin la France a quand même une grande proximité avec ce pays, mais voilà, peut-être la religion orthodoxe, enfin tous ces rituels. Et ce que j'aime aussi dans ce pays, qui restait quand même très rural, et la grand-mère, elle est beaucoup attachée à des rituels, qui sont des rituels après d'appartenance, d'identité fort, où on fête des saints, mais au-delà de la religion, où on a une culture culinaire forte, où voilà. Après, je considère, enfin c'est comme ça que j'écris, je tire un peu des fils, c'est venu autour de la grand-mère. Après, les dictatures, c'est quand même quelque chose. J'avais envie d'écrire la petite histoire dans la grande. On a vu, voilà, c'est toujours au programme d'histoire, on apprend les dictatures, les ressorts de la politique, mais qu'est-ce que ça crée dans une famille ? Et par rapport au transgénérationnel, je voulais marquer que 40, enfin, les dictatures sont tombées, enfin, celle-là, elle est tombée en 89, quand Ceausescu a été exécuté le jour de Noël. Bon, c'est image qui m'avait marquée quand je l'ai vue à la télé.
D'accord.
J'avais 12 ans.
D'accord.
Ouais, elle m'avait quand même très marquée, lui et sa femme. Je voulais montrer que, bien sûr, que c'était un très grand événement. D'ailleurs, je le décris dans le roman pour ses parents, mais que les dictatures ont vraiment laissé des stigmates, même encore aujourd'hui, dans les familles, au-delà de l'aisance, de retrouver, on va dire, une économie capitaliste où les gens ne sont plus dans le besoin comme ils l'ont été. Bien sûr que c'est bien qu'il n'y ait plus les files d'attente, etc. Mais les familles sont marquées au cœur. Et le but, dans cette famille, il y a un gros secret de famille que je ne dévoilerai pas. mais c'est un secret de famille réel. Et donc, comme je vous disais, j'ai beaucoup de lecteurs roumains. J'ai des gens roumains qui m'ont dit « j'ignorais qu'il s'était passé ça dans mon pays ». Et je ne dis pas que ça s'est passé dans toutes les familles, mais ça s'est passé.
Donc, voilà. Vous vous êtes prise de passion pour ce pays.
Oui, oui.
Vous êtes prise de passion pour cette histoire. Une autre passion est très présente aussi dans le récit. C'est celle donc que porte Cornelia à la musique. On y revient.
Oui, tout à fait.
On revient sur ce personnage de Cornelia qui est discret mais quand même assez pivot, si oui. On peut prendre un...
Ouais, et puis je dirais que c'est quelqu'un qui dégage une présence.
Oui.
C'est, alors, elle est très âgée parce qu'elle approche les 90 ans dans un pays où on n'a pas l'aisance matérielle qu'on connaît. Donc, mais j'espère le décrire. Enfin, voilà. Elle, quand elle voit Cornelia, voilà, rien que son regard dégage... Elle dégage cette puissance, cette joie, je dirais. Pour moi, c'est ça qui était important. Que ce qu'elle dit, c'est... Il y a une phrase que j'ai écrite, je pense, et c'était le titre d'un roman, c'est... Ils n'ont pas pu tout nous prendre. Voilà.
Et notamment la musique.
Ben, la musique, ce qu'on avait dans le cœur, ce qu'on a gardé, oui, tout à fait.
Donc, qu'est-ce qu'on entend là, en fond? Qu'est-ce que vous faites partager à nos auditeurs?
Donc là, c'est un morceau de Chopin, et c'est un morceau donc Cornelia... jouer quand elle était jeune fille avec la grand-mère d'Iliana. Enfin, avec la grand-mère d'Iliana. Ce qu'elle elle ignorait totalement que sa grand-mère avait ce passé-là. Hein. Donc, et il faut savoir que Cornelia, quand même, a gardé un piano dans des familles où certains mois, on n'arrivait plus à manger. Quoi. Mmh. Donc, c'était aussi. Cette femme, elle a une présence, elle a beaucoup de tempérament. Et. Je vais, on va dire, susciter l'envie qu'on lise mon livre, mais j'explique comment elle a réussi à garder son piano, parce qu'elle s'est battue pour ça, quoi. Donc, voilà.
Et pour susciter encore plus l'envie, est-ce que vous me feriez le plaisir de lire un petit passage de votre ouvrage?
Allez, on va y aller.
Merci.
Donc, effectivement, elle est donc dans le village de naissance de sa grand-mère, et donc elles sont chez Cornelia. À notre tour, Cornelia nous avait conviés à venir l'écouter jouer du piano. Rodica, donc c'est la fille de Cornelia, n'était pas encore revenue du travail. Cela avait été un soulagement que d'éviter une nouvelle scène entre elles. Lorsque nous entrâmes dans la chambre à l'heure convenue, Cornelia était déjà à pied d'œuvre. Assise sur le rebord du lit, nous la regardâmes prendre vie derrière son instrument qu'elle parcourait de ses mains lestes. Elle enchaîna plusieurs morceaux. L'harmonie de la musique me berçait. Doina avait cessé d'être nerveuse et s'était laissée entraîner par la magie des notes. Doina et Cornelia, ces deux femmes et moi dans la petite chambre près de Barcesti, ici et ailleurs. Ces 24 heures à peine passées ensemble resteraient des instants précieux pour toute une vie, je le savais déjà. Rodica entra discrètement dans la pièce et s'installa à nos côtés. Cornelia nous annonça. Une valse de Chopin, mesdames. Je l'ai apprise en même temps que Mada, une de nos préférées. Nous la jouions à quatre mains. Cornelia, plus habitée que jamais, entama la composition. Son corps gracile ondulait la mesure et se fondait dans la mélodie. Les stigmates de son âge, qui obstruaient sa démarche dans le quotidien, disparurent l'instant de ces divines minutes. Elle marqua avec solennité la dernière note et se tourna vers nous. « Mesdames, c'est fini pour aujourd'hui. Un pianiste doit savoir s'arrêter avant de lasser son public. »
Merci. J'aurais écouté plus longtemps, sans lassitude, personnellement.
Merci
beaucoup pour cette lecture. Nous allons quitter donc ces personnages et ce récit pour parler d'une expérience vécue qui est dans la réalité, qui vous est propre. Vous disiez donc que des ressortissants roumains, des roumains, des lecteurs de cette culture-là, ont porté votre livre en disant, en s'y reconnaissant, en y apprenant même des choses. Et je crois savoir que vous avez fait l'expérience du Festival du Livre de Paris.
Tout à fait, une expérience incroyable dont je ne rêvais même pas.
À la table, donc, à quelle table?
Et effectivement, j'ai eu la chance d'être invitée par l'Institut culturel roumain. Donc, le livre, comme je vous l'ai expliqué, a beaucoup de lecteurs roumains. Donc, j'ignore même comment ils l'ont repéré, enfin voilà, l'ouvrage. Et eux, donc l'Institut culturel roumain est adossé à l'ambassade de Roumanie en France. Et c'est vrai que c'est une culture. Ils ont vraiment cette instance culturelle pour faire rayonner la Roumanie en France, tous les arts, que ce soit bon, la sculpture, on n'a pas parlé de Brancusi qui est présent dans l'œuvre, mais qui est le sculpteur roumain adoré de tous les Roumains. Donc, et qui en plus a son atelier à Pompidou, donc il y a un lien très fort avec la France, que ce soit la littérature, la musique, souvent de la musique classique d'ailleurs. Donc c'est vrai que l'Institut culturel roumain m'a invité sur le stand au Festival du Livre de Paris. Donc c'est une expérience extraordinaire en tant qu'auteur. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir aller à l'ambassade de Roumanie, entendre des conférences en roumain. Donc il faut savoir que c'est un hôtel particulier qui est juste comme Versailles, quoi.
D'accord.
Donc il y avait aussi, voilà, il y a eu une expérience complètement hors du temps.
Et vous comprenez la langue ?
Non, je ne comprends pas la langue. Par contre, j'avais l'impression un peu... Alors ça ressemble totalement à l'italien.
D'accord.
Et c'est là qu'on voit vraiment la consonance latine, parce que la plupart de la conférence était en roumain, avec un traducteur qui était présent. Et vraiment, j'avais l'impression d'être dans ces fameuses soirées de la communauté roumaine des années 80, quand elle est arrivée en France. C'est ce que ça m'a donné comme, comme impression, quoi.
C'est merveilleux.
Voilà.
Et au moment du festival, justement, qui avez-vous pu rencontrer ? Qu'est-ce que vous avez pu partager ?
J'ai plutôt rencontré un lectorat roumain, c'est-à-dire que en fait l'Institut culturel roumain a chaque année un stand en fait au Festival de Paris, et il y a des gens roumains qui viennent exprès pour faire le plein.
D'accord.
De livres roumains.
D'accord.
Voilà, il y a quand même ce côté-là. Et après, l'anecdote a fait que la vie est merveilleuse. J'avais fait quand même un salon à Beaucaire. Et j'ai une dame qui est venue avec son petit-fils, parce qu'elle a vu que j'étais là présente et elle voulait racheter un livre. Donc, c'était formidable.
Donc, c'est une actrice qui vous suit sur,
oui, sur tout, différents salons. Tout à salons. Fait. Donc, voilà, il y a eu aussi cette expérience qui s'est ajoutée. Mais oui, j'ai plutôt connu des gens, je vous dis, qui viennent vraiment faire leur plein de livres roumains à cette occasion.
C'est merveilleux.
Oui, tout à fait.
Et donc, nous arriverons à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité, de l'actualité de ce livre ou de vos projets à venir éventuellement ?
Alors, comme on n'en a pas spécialement dit, mais ce livre est en auto-édition, donc sa diffusion repose sur ce que moi je peux réaliser, donc je continue sa diffusion. Mais surtout, je suis quand même dans l'écriture de mon deuxième roman, mmh. auquel j'essaye de consacrer un peu plus de temps et d'énergie. Parce que, voilà, donc c'est un livre, cette fois-ci, qui se passera entre la France et Zanzibar.
France et Zanzibar.
Et Zanzibar, voilà.
Très bien.
Voilà. Je ne vais pas pouvoir tout dévoiler, pardon. Mais c'est l'histoire de... Non, c'est l'histoire de deux femmes qui ont un lien entre elles. Et on va dire que comme point commun, bon, il y a tout ce qui est transgénérationnel, parce que ça, je pense que je le porte vraiment au moins. Mm-hmm. Et je dirais aussi qu'en quelque part, Ileana, dans ce roman, sa quête d'identité, c'est en quelque part une quête de liberté. Enfin, savoir qui je suis, qui ils sont avant moi, pour pouvoir voilà, vivre ma vie à moi. Donc ces deux femmes, ce qu'elles ont en commun aussi, c'est qu'elles vont aller chercher leur liberté. Et Zanzibar étant une terre d'esclavage, une plateforme de l'esclavage au XIXe siècle, quoi de mieux que de parler de liberté dans une terre d'esclaves. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Anne-Sophie Lacombe.
Merci.
Je souhaite une très belle vie et une très belle suite donc, à votre ouvrage « Le doux murmure des Carpates » que l'on peut retrouver à la librairie Les Puches Livres, qui en plus a été primé...
Oui, au Grand Prix Saint-Loup l'année dernière du prix Serran.
Félicitations.
Merci.
Encore. Je remercie nos auditeurs, nos auditrices. Je vous remercie donc pour votre ouverture et votre oreille. Et je vous dis à bientôt.
Les Puches Livres.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain de...